Salut les smart et bienvenue dans Catch Up, votre émission transpire le catch. Aujourd'hui, c'est l'heure des Survivor Series et pour analyser ce pay-per-view pour lequel on était chaud bouillant, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal,
salut
les Marc, salut les Smart et bienvenue.
Et j'ai également l'ami Ringside.
Salut Ringside. Salut IRM, salut Giscal, salut les amis.
Un gros programme hein, les gars qui nous attend. Ringside, tu as regardé ça en live paraît-il.
Exactement. J'ai passé ma nuit dessus.
Pas trop dur.
J'ai trouvé que ça avait passé très vite bizarrement. C'était très long mais j'ai pas vu le temps passer moi de mon côté.
Bon signe.
Eh ben, franchement, c'était bien courageux. Je crois que moi, je sais pas toi, Jessica, c'est déjà arrivé de faire des lives.
Oh, il y a très longtemps. Les premiers pay-per-view, je me rappelle quand je m'étais inscrit sur les cahiers du catch, on les regardait en live avec la tribune et tout. Mais j'ai vite lâché ce truc-là. J'y arrivais pas. C'était trop dur physiquement.
Ouais, effectivement. Hein. Il faut tenir le coup. Il faut de la caféine.
Faut être insomniaque.
La caféine.
Faut être insomniaque.
En tout cas, on a eu droit à un pré-show. Je ne sais pas s'il était aussi bien que le pré-show que nous vous avons offert hein, dimanche soir. Nous étions en direct tous ensemble pour vous chauffer un petit peu, s'ambiancer. Encore merci à toutes et à tous d'être venus là sur le chat. C'était sympa. On va reproduire évidemment ce genre d'opération pour les prochains pay-per-view parce qu'on avait bien kiffé passer ce petit moment ensemble. Alors, il y a eu 3 matchs. Au pré-show, il y a eu un match pour le championnat Cruiserweight avec Enzo Amore qui a défendu son titre contre Kalisto. Alors, moi je n'ai pas regardé le pré-show, mais on en a parlé juste avant, paraît-il, si vous aimez Boccia Mania, c'était le match à voir. C'est bien ça, Giscal ?
Ouais, c'était très sympa. Si vous voulez voir une belle entrée de Kalisto foiré avec le voir pendu sur la troisième corde à pas réussir à passer par-dessus, c'est votre match. Et si vous voulez voir un beau finish loupé aussi avec les commentateurs qui essayent de rattraper le coup en nous prenant pour des jambons, vous pouvez voir aussi ce match. C'était un beau florilège.
Bon, il y a eu deux autres matchs. Évidemment, Enzo Amore, comme dans les pronostics que nous avions faits, a conservé son titre. Puis, Kevin Owens et Sami Zayn ont défait la Fashion Police. Ils les ont vaincus dans un petit match de moins de 10 minutes. Et on a également eu Elias, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui a vaincu Matt Hardy. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à signaler sur ces deux matchs ?
Le match Cruiser était affreux.
Affreux, dégueulasse.
Bon messieurs, si vous voulez bien, on va passer donc aux choses sérieuses et on commence sans plus attendre avec le New Day qui affrontait le Shield dans un match très 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 attendu par la communauté internet du web francophone de la lutte. On commence avec une promo des New Day qui vante la solidité de leur amitié opposé à celle du Shield, beaucoup plus friable. Le match commence. Alors, il y a un petit match-up par tour de rôle hein, où Kofi se retrouve confronté à Dean Ambrose et puis après Woods face à Seth Rollins ou l'inverse. Et Big E, évidemment, fait face à Roman Reigns. Les membres du Shield en font parler leur puissance. Kofi contre le Dirty Deeds en reculant. C'est très rare de contrer le Dirty Deeds ainsi, mais surtout, on sait, on en parle souvent, hein, le Dirty Deeds, une fois que t'es dedans, s'il est placé, c'est fini. Donc il faut vite t'en échapper. Passage à tabac ensuite. Un Kofi qui se pète les couilles sur le turnbuckle. Une giclée de dive s'ensuit. Hein, tout le monde saute un peu à l'extérieur à sa façon. Oui, giclée de dive, hein, ça t'a fait marrer ça. Dean Ambrose est tesselé, mais parvient à taguer sur Rollins. Il y a une grosse séquence hein, de Dean Ambrose seul face à l'adversité. Rollins qui expose Xavier Woods dans le coin avant que Roman Reigns ne le décapite pour le compte de deux. Le Big Dog fait chauffer les pneus, mais le spear est contré. Seth Rollins sauve la mise en distribuant des gros kicks. Big E est encore hein, la cible des gros kicks. Il a été souvent face aux Uso. Là, il en a bouffé encore. Je ne sais pas en quoi est faite sa tête et son cou. Mais c'est du costaud chez Big E. Enchaînement Kingslayer Dirty Deed sur Kofi qui est cassé par Xavier Woods. Ça y est, hein, le match s'emballe. Triple powerbomb contré également par un New Day déchaîné qui exécute 1-1-1 les chiens de la justice. après. Alors il y a une espèce de tour Eiffel, tour de Pise là du New Day où ils sont tous les trois les uns sur les autres à la verticale depuis le turnbuckle. D'abord c'est Kofi qui est lâché, c'est Xavier Woods hein, je crois qu'il porte tout le monde. Il me semble, à moins que ce soit Biggie. Non, c'était Xavier Woods, ce qui est très étonnant. Mmh. Il est très fort hein. Il fait tomber d'abord Kofi et après Biggie. Hein, cette espèce de splash là qu'ils font habituellement à deux, là ils l'ont fait à trois. Enchaînement avec le double midnight quelque chose, c'est ça la prise, je ne sais plus.
Midnight hour.
Il me semble bien avoir loupé un des deux mots. One two spear de Roman Reigns qui explose Xavier Woods et casse le tombé en même temps. C'était très bien vu hein, ce spear de Roman Reigns sur Xavier Woods et en même temps il casse le tombé. C'était bien amené, c'était bien filmé. On sait que ce week-end, les réalisateurs de la WWE ont pas fait toujours du bon boulot. Et le second, bah justement, le second spear qui va couper Kofi Kingston en deux, cette fois-ci filmé vraiment de façon dégueulasse, parce que de derrière, du coup, tu vois pas du tout Kofi se faire couper en deux. Tu ne peux qu'imaginer. Et une fois de plus, une fois de trop, la sentence est immédiate. La mort par triple powerbomb depuis le turnbuckle. 1, 2, 3, victoire du Shield, le compteur est à 1 pour la Team Raw, le compteur est à 0 pour SmackDown, d'ailleurs il y a un petit visuel hein, qui met ça en avant, donc clairement ce soir les Survivor Series, c'est une histoire de points, et est-ce que le Shield a réussi à ramener le premier point avec l'art et la manière Giscal ?
Eh bien écoute, c'était pas mal. J'ai pas été, pour être parfaitement honnête, j'étais un poil déçu parce que c'est vrai que c'était pas le grand feu d'artifice que je m'attendais pour le retour du Shield. J'étais un poil en dedans. Alors j'ai bien aimé le début du match avec la succession de 1v1. J'ai trouvé que c'était assez sympa avec les match-ups, bon, évidemment Roman Reigns, Kofi, enfin voilà les petites successions de tags. Le finish du match était sympa. Mais tout ce qui est entre, on va dire, peut-être que ça manquait un tout petit peu de, je sais pas, de punch, de vie. J'ai pas complètement accroché. Je trouvais que ça manquait peut-être un peu d'innovation, de move un peu qui te décroche la mâchoire. J'ai pas été complètement transcendé. Bon, après, c'était un super match. Il y a eu, surtout sur la fin, tu l'as bien dit, il y a eu des super near falls. Le spear de Reigns là, qui casse le tombé, c'était superbe. Woods qui vient sauver in extremis hors champ de caméra aussi. Le Dirty Deeds là, sur Kofi, c'était bien. Donc il y a pas à chier, hein. ils ont fait le boulot, c'était un bel opener, la foule était à fond dedans. Tout petit peu déçu de ce retour du Shield. Peut-être est-ce que c'est parce que moi perso je m'attendais, c'est vrai, à ce que ce soit un vrai 3v3 gros bordel. Je pensais pas que ce serait un 3v3 classique, un mec de chaque équipe dans le ring. C'est peut-être ça qui m'a un peu refroidi. Mais bon. Ça restait quand même du très costaud. Tu sens que des deux côtés, il y a une énorme maîtrise. Et puis au final, moi, dans l'histoire, je me demande si c'est pas le New Day qui m'a le plus impressionné. Ils font vraiment décidément une année de rêve en pay-per-view et ils continuent à être très très haut niveau. Alors que le Shield a plutôt joué sur ses forces, on va dire un peu avec leur signature moves. Donc voilà, écoute, bon début de show indéniablement, mais peut-être préférer autre chose pour le début du Shield en pay-per-view. Ouais.
Et toi, Ringside, alors est-ce que l'événement a-t-il été à la hauteur? Ou le match a-t-il été à la hauteur de l'événement?
Ah, moi je suis.
La question est au choix.
C'est vrai, je suis un peu dans le même état d'esprit que Giscal. Je suis un peu dans la déception hein, plutôt pour cet opener. Effectivement, grosse confrontation qu'on attendait, beaucoup de star power. Voilà, moi je voulais voir le choc du New Day contre le Shield. Et puis finalement, on a eu quand même un long moment où c'était Dean Ambrose qui se faisait taper dessus par tout le New Day. Donc ça ralentit pas mal le match. Maintenant, il n'y avait rien qui était, réellement mauvais. Mais c'est sûr que par rapport à ce qu'on s'attendait, la déception quand même, elle est là. Il y a eu des moments quand même spectaculaires. C'est surtout le New Day effectivement qui a porté le match en tentant des choses un peu nouvelles. Alors c'était parfois un petit peu brouillon, mais au moins ils ont fait le nécessaire pour que ce soit spectaculaire comme il faut. Rollins a été un petit peu invisible dans le match. En gros, il a fait le gros du boulot pour ce qui est du côté du Shield. Le Big Dog, Roman Reigns, a été percutant en fin de match, comme il devait l'être, hein, puisque ça, voilà, c'est les muscles du Shield qui est là pour mettre les points sur les i et boucler le match. Ça fait le job pour un opener. Maintenant, par rapport à ce qu'on attendait d'une confrontation entre les deux plus grands clans de la WWE à l'heure actuelle, c'est quand même un petit peu décevant. On aurait bien aimé effectivement qu'ils nous sortent le Spotfest des familles, mais on est resté dans le carcan d'un opener de WWE.
Ça a été réservé pour un autre match peut-être.
Voilà, joliment exécuté quand même, mais quand même un petit peu un poil décevant par rapport aux attentes.
Bon, effectivement, ça, ils ont fait le boulot, mais ils sont pas allés au-delà. Du coup, c'est pour ça qu'on est peut-être un petit peu déçus. On enchaîne avec une séquence, la séquence malaise, hein, évidemment, avec Stéphanie McMahon qui est dans les backstage pour avec les filles hein, de la Team Raw et donc qui les chauffe hein, une à une en disant ouais, toi Alicia Fox au début je croyais pas trop en toi mais bon t'as réussi à rallier les autres filles derrière toi toi Nia Jax tu es la force brute tu vas te retrouver face à Tamina tu vas réussir à la malmener etc donc elles ont tout droit à un mot alors elles sont gentilles hein, les filles elles disent toutes oui Madame McMahon et puis à la fin elles partent en courant comme des idiotes jusqu'au bout du couloir. t'as Tsuka avec son gros peignoir. C'était assez.
J'espère que le ring était bien
ridicule.
Par là. Hein.
Ouais, c'est ça. Tu vois quand même la séquence s'arrêter. Où est-ce qu'on va?
Putain, les filles, c'est pas du tout. Donc, marrant, bon.
Petit, voilà, toujours voilà. Un petit souci. Stéphanie, je l'adore parce qu'elle fait. Elle en impose et elle sait gérer la foule par
là,
exemple.
Là, elle en a posé là.
Clairement, il y a. Ouais, là, mais là, c'est trop.
Hors de propos
quoi,
là.
C'est hors
ça
de
colle
propos.
Plus
ouais,
à la team bleue qu'à la team rouge, ce genre c'est... de pep talk là.
Rien qu'au niveau de sa carrure, elle est deux fois plus grande que le reste du roster. C'est quand même dérangeant ça quelque part.
Elle n'avait pas choisi une robe extraordinaire là pour une fois. Là,
d'habitude, ils font tout pour la mettre en valeur. Là, sur cette séquence-là, c'était pas top quoi.
Fashion faux pas. Voilà. Bon, on va parler du match, messieurs, si vous voulez bien. Alors, les deux capitaines hein, s'occupent de démarrer le match. Alicia Fox face à Becky Lynch. On nous rappelle d'ailleurs que oui, Alicia Fox, il y a longtemps, c'était une championne. On a droit à ça.
Voilà.
Ça commence à dater. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, le pire reste à venir hein, quand Becky Lynch ne voit pas le tag de l'équipe adverse et se fait sortir.
Qui se fait sous ses yeux quand même. Hein.
Oui, voilà. Mais des fois, on voit des choses et on fait semblant de ne pas les voir.
Voilà.
C'est un peu
même.
Ce qu'a fait Becky Lynch hier soir. Et puisqu'elle s'est fait sortir sur un roll-up de Bayley. Bye bye, la capitaine, assez ridicule quand même. Ouais. Ça a un peu refroidi la salle. Moi, ça m'a un peu refroidi aussi. Natalia puis Tamina prennent le relais avant que, pour une raison encore inexpliquée à ce jour, on fait entrer soudainement Asuka le temps de placer trois coups un petit peu mous et de ressortir. C'est assez bizarre de faire entrer Asuka. En général, on garde les gros noms plutôt vers la fin pour faire la dernière entrée ou en tout cas pour avoir un impact. Là, elle est sortie, elle a fait trois coups dans le turnbuckle puis elle est re-rentrée. C'est assez bizarre. Sale quart d'heure hein, après pour Bayley qui se fait rosser par le roster. Super fly splash de Tamina. Et au revoir Bayley. Eh oui, Tamina donc qui a un gros moment de destruction là et qui termine ça par l'élimination sur la câlineuse professionnelle. Qui alors hein, qui messieurs pour contrer cette force de la nature hein, qui est la Samoane, l'inarrêtable Tamina. Eh bien évidemment c'est Nia Jax hein, qui entre sous les vivas de la foule. On nous vend alors un duel de monstres. Mais bon, il y en a qu'un sur le ring. On n'y croit pas trop à ce duel de monstres. Tamina n'ayant jamais vraiment bénéficié hein, d'un traitement adéquat. Et le temps d'une soirée, voilà, c'est la belle histoire qu'on fait semblant de croire. Tamina échoue ensuite dans l'épreuve de force. Mais malgré tout, place un super kick hein, qui envoie Nia Jax hors du ring. Jusqu'au compte de 10, Nia Jax est éliminée par décompte à l'extérieur. Alicia Fox est furieuse. Naomi, alors là ça, c'est là où ça part en cacahuète, hein. forcément, puisqu'Alicia Fox est concernée. Naomi, et puis Naomi aussi. Naomi veut en finir et place un périlleux roll-up. Et là, c'est assez étrange ce qui se passe. Alicia Fox semble se sortir du roll-up, mais l'arbitre a, semble-t-il, compté malgré tout jusque 3. Incompréhension générale, ce qu'on appelle dans le jargon botch. Alicia Fox donc est éliminée, même si officiellement c'est annoncé après la sortie suivante, l'élimination suivante, qui est Naomi, qui n'a pas le temps de comprendre qu'elle se retrouve dans le bank statement et abandonne. Hein, on n'a pas le temps de niaiser là. On abandonne rapidement ouais. Hein, dans ce genre de match. Ensuite, c'est Carmela hein, qui vient chatouiller Atsuka et se bouffe un gros kick après une petite session de gros kick là qui va l'éliminer. Donc la porteuse de mallette, au revoir. On se retrouve alors en 2v2. Il reste Atsuka et Sasha Banks d'un côté et Natalia et Tamina de l'autre. Voilà. Double souplesse de la team rouge, échange de claques, tombe buckle dans la tronche. Sasha abandonne à son tour, prise dans le sharpshooter de la terrifiante Natalia. Et elle est devenue quoi, Tamina?
Elle est toujours là.
Et Tamina,
elle est jusqu'au bout quasiment.
Ouais. Mm-hmm. Oui, entre temps, Tamina s'est fait éliminer par Atsuka, j'imagine. Je ne l'ai pas noté.
Non, parce qu'Atsuka finit en 1v2. Donc,
Ah oui, c'est ça. Et voilà, Atsuka finit en 1v2 et parvient à éliminer les deux dernières opposantes via sa prise de soumission, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si c'est le cas. Et donc Atsuka est la seule restante debout à la fin. Ringside, qu'as-tu pensé finalement de ce drôle de match ?
Ouais, c'était très brouillon encore une fois, mais il fallait s'y attendre hein, avec les personnes qu'ils ont mis en avant dans le match. Bon, la mission, c'était de toute façon de mettre en avant Asuka. Donc ouais. Ça, là-dessus, c'est réussi. Après, sur le déroulé, effectivement, si tu fais partir Becky Lynch tout de suite, ensuite Bayley, bah, tu te restes avec Nia Jax, Tamina, Carmella, Natalia... Alicia Fox, mon dieu, Alicia Fox, elle a loupé tout ce qu'elle a fait, hein, toutes les prises qu'elle a tentées avec Naomi.
Terrible.
Elles ont tout planté. Son élimination est botchée. Donc, voilà, effectivement, si tu fais partir les talents que tu as dans le roster rapidement, bah, il ne te reste plus que les boulets. Et les boulets, bah, ils te font un match qui est médiocre, qui est botché pour la plupart des trucs. Bon, dans la construction, c'est quand même sympa. J'ai bien aimé cette confrontation entre Nia Jax et Tamina. Ça c'est plutôt sympa, donc effectivement Asuka s'en sort bien, elle est bien mise en valeur. Après moi j'aurais préféré quand même clairement voir Becky Lynch rester plus longtemps, Bayley aussi, Sasha Banks, que les trois la foutent sur la gueule, tant pis, on l'a déjà vu, mais ça aurait été mieux que de scoltiner tous les boulets du roster qui savent pas enchaîner trois prises hein, malheureusement hein, toutes ces filles là ça commence à se voir qu'elles ont pas le niveau, et quand on est à Survivor Series ben c'est un peu dommage de proposer ça au public. Maintenant bon, c'est un peu le problème de la division du féminine où comme je le dis souvent, les bonnes personnes sont pas aux bons endroits, parce que Sasha Banks, finalement, elle n'avait pas grand-chose à faire dans ce match à élimination. Elle a le niveau pour tenir un match solo. Voilà, elle aurait dû être peut-être dans le match de championnat. Mais bon, pas possible dans la configuration actuelle. Mais on peut pas en faire grand-chose dans un match à élimination, parce que ce n'est pas du tout crédible qu'elle se fasse éliminer. Donc, ça plante un peu le match dès le début. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Il faut vraiment qu'ils revoient un peu leur roster, parce que là, les personnes qu'ils ont tendance à mettre en avant, c'est pas des talents suffisants pour qu'on soit diverti entre guillemets. Donc voilà, c'était peut-être le plus mauvais match de la soirée, je pense, sans problème.
Alors Giscard, est-ce que toi t'as été diverti?
Aisément le plus mauvais match de la soirée. Non, j'ai pas été diverti du tout. J'ai trouvé ça très chiant. J'ai rien à sauver dans ce match. Moi, ça m'a même pas transcendé le Nia Jax contre Tamina, parce que Tamina, le problème, c'est
qu'il fallait vraiment dire, fallait croire à l'histoire qu'on était en train de nous raconter, qui était.
Ouais, en fait, il fallait croire à fond que Tamina était super forte du jour au lendemain, alors qu'en fait, elle n'existe pas depuis 4 mois. À SmackDown, donc soudainement c'est la behemoth de SmackDown qui arrive et qu'il faut abattre, et qui sort Bayley, qui sort.
Puis elle est out of shape en plus. Hein.
Donc elle est pas bien du tout. Donc on n'y croit pas. Donc moi j'ai accroché à rien. Pour moi c'était un match très très mal booké parce que, et on le verra dans le Survivor Series des hommes qui peut-être n'aura pas plu à tout le monde, mais qui était beaucoup mieux écrit dans la façon, en tout cas, de faire sortir les faire-valoir du match. Parce que là, dans un Survivor Series, on sent généralement est-ce que un faire valoir, puisse au moins avoir une séquence un peu chaude, placer ses signature moves, faire popper, faire en tout cas servir à quelque chose. Là, il y a eu des éliminations qui étaient complètement anecdotiques, à commencer par Becky Lynch qui n'a rien fait du match et qui s'est pris un roll-up, ouais. C'est tout. Mais c'est pas la seule, et si on reprend le fil du match, et tu l'as dit hier même quand tu racontais, il y a des éliminations qui n'ont soit pas de sens, soit qui arrivent à contre-temps, donc on peut pas rentrer dans ce match-là en fait. Donc il est mal fait, tout était écrit pour que manifestement Asuka se retrouve face au heel de SmackDown à la fin, qui était en effet une fin tout à fait acceptable et plutôt bien jouée. Donc voilà, on avait le 1 contre 2 de la valeureuse japonaise qui est trop forte pour SmackDown et qui a pu du coup montrer un peu son arsenal de prise de soumission. Mais bon, à part ça, bravo à Asuka hein, qui marque des points. Mais sinon, je partage complètement l'analyse de Ringside. On se retrouve avec un match un peu d'handicapés quand on fait sortir ses meilleurs éléments dès le début. Et puis on met sous le nez du public la pauvreté finalement du roster et des deux côtés hein, donc
la pauvreté du roster et d'autant plus si tu fais sortir les meilleurs éléments du roster dès le départ ça n'aide pas effectivement là je suis entièrement d'accord avec vous. Moi c'est pour moi également probablement le moins bon des matchs de la carte principale. On enchaîne avec encore une séquence backstage de Stéphanie hein, qui veut vraiment nous briller ce soir. Elle veut être visible.
C'est bragging rights. Hein.
Exactement. Stéphanie et Daniel Bryan débattent de qui est la plus grosse. Ils se rappellent des bons et des moins bons moments hein, de leurs interactions respectives. Hein. On reparle de WrestleMania, évidemment, quand il a battu Triple H, etc. Ils mettent tous les deux hein, sur un piédestal leur carte joker. John Cena d'un côté, Triple H de l'autre. Bon, c'est marrant, hein, puisque évidemment, c'est les mecs qui sont rajoutés, qui faisaient pas partie du roster et qui sont rajoutés au dernier moment. Mais effectivement, ce sont des cartes de joker, ça, y a pas de doute. Stéphanie plante à la fin une graine hein, dans la tête du barbu, en rappelant que si Shane se fait détruire comme prévu ce soir, eh ben, Daniel Bryan obtiendra le total contrôle du show bleu. Voilà, une petite graine plantée pour les semaines à venir. Le match qui s'ensuit, le Miz versus le Baron. Le Miz qui a fort à faire ce soir, il veut faire briller hein, la suprématie du titre intercontinental et surtout venger l'honneur de sa femme, prise à partie par le Baron dans une insoutenable vidéo Twitter de 1 minute, postée il y a 2 ou 3 semaines. Alors, la ruse hein, et les sbires du natif de Cleveland ne sont pas de trop face à la force brute et l'explosivité du Baron hein, qui enchaîne les coups sous les yeux de la belle Maryse. Un beau moveset, hein, le Baron. Je crois que c'est Ringside qui parlait d'un moveset de face, de grand. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Il a des moves qui claquent, des moves de l'impact. Hein. Le loup solitaire doit d'abord se débarrasser des deux affreux acolytes dans le mistourage en distribuant des baffes. Alors c'est Curtis Axel qui avait sa Minerve rouge en fait, hein, parce que chacun était aux couleurs.
Il avait une Minerve rouge.
Et donc à un moment il se prend une baffe du Baron, la ringside, qui était assez impressionnante. Et Bo Dallas, lui, se mange tout simplement un End of Days. Et le Miz passe alors en mode Daniel Bryan justement hein, avec ses enchaînements de yes kick bref toute la panoplie qu'il lui a pour rendre hommage évidemment c'est un hommage hein, à Daniel Bryan. Mais le dernier running kick là dans le turnbuckle est de trop, il se fait finalement cueillir par le End of Days, c'est fatal, victoire du loup, victoire clean, hein, propre, net, sans bavure, qui déclare alors, le Baron déclare alors au micro, parce qu'évidemment, René Young pouvait pas s'en empêcher, elle est venue interviewer le beau Baron, et il dit qu'il a fait taire le Miz, le public, il a fait taire tout le monde, il reprend, il se moque un peu de la catchphrase du Miz, hein, quand il lève la main, tout le monde se tait, il la réutilise à son bénéfice, il a donc fait une pierre de coups pour notre beau loulou. Hein, Giscal? Loulou.
Oui. Bravo Baron, sauve l'honneur de SmackDown. C'était pas mon pronostic, j'avoue, j'étais un peu surpris, mais agréablement surpris de ce match qui est allé à l'essentiel. Ils ont bien utilisé leurs 9-10 minutes, là je sais pas combien ils avaient, mais en tout cas, ils ont fait du bon boulot parce qu'ils se sont pas perdus, j'ai trouvé, dans ce qui aurait pu être le piège de ce match, hein, parce que c'est pas non plus deux heels flamboyants dans le ring. Ils se sont pas perdus, je trouve, sur des phases de de lenteur au sol, des grosses, des segments un peu foireux. J'ai trouvé que le match était assez vivant. Ils ont plutôt bien intégré Maryse dans la dynamique du match. Ils ont bien intégré le Mistourage dans la dynamique du match. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, très agréablement surpris de ce match. Et le Baron, qui fait le taf et qui, ouais, en effet, est un peu sauvé par. Il n'est pas que sauvé parce qu'il s'est catché, hein, mais c'est vrai que ces deux moves qu'il a, qui sont le Deep Six et le End of Days, font quand même pas mal de bien à ces matchs de manière générale, parce que c'est des moves qui claquent, dans lesquels le public rentre à fond, parce qu'il y a de l'impact, c'est très visuel. Donc tout de suite, ça donne des beaux segs, ça donne des beaux moments, ça donne des belles near falls. Donc ça, c'est bien. Et puis bah, j'ai trouvé que le Miz avait encore été excellent, et il s'est toujours bien s'adapté à ses adversaires. Il fait une belle année aussi, je trouve, le Miz. Donc écoute, un match de mid-card qui a tout à fait bien fait le beau, pardon.
Ringside, qu'as-tu pensé de notre beau loup solitaire?
Ouais, moi je rejoins parfaitement Giscal. C'était la bonne surprise de la soirée. J'attendais vraiment pas grand chose de ce match, comme beaucoup, hein, je pense.
Ouais, je pense. Ouais.
Et au final, j'étais vraiment dedans du début à la fin. Il n'y a pas eu de lenteur. Tout a fonctionné comme ça devait fonctionner. C'était super fun quand il a commencé à tabasser le Mistourage, le bon Baron. Le Miz a fait le job pour mettre en valeur son adversaire. Pour une fois, il n'avait pas l'air trop perdu. On ne s'est pas ennuyé dans des phases de domination du Baron qui sont souvent un petit peu longuettes et répétitives. Ouais. On n'a pas eu ça dans ceux-là. C'est peut-être pour moi le meilleur match de Baron Corbin depuis son arrivée à la WWE.
En un contre un, effectivement. Il a fait des beaux matchs au triplet, mais bon, souvent il y avait Jay Styles dedans, donc. On verra plus tard que dès que tu mets Jay Styles dans un match. Voilà.
Ça fait tout là.
C'est exactement. Voilà, vraiment rien à redire. Un bon match classique de la WWE. On n'a pas eu des spots spectaculaires de fou. C'est pas les deux plus gros techniciens qu'on a dans le ring. Mais là, ils ont raconté une histoire. Il y avait du rythme. Il y avait de la précision et du coup, bah, c'était vraiment très divertissant. Et vraiment, je mets le label catch-up sur ce match-là.
Putain, on a un label. Regarde, je ne savais pas.
Et ben voilà.
Le premier label catch-up est donné à un match du Baron. Écoute, tu ne pouvais pas nous faire plus plaisir, là, je crois.
Victoire du Baron.
C'est là, je pense, pour lui, ça a plus d'importance à ses yeux que le trophée André le Géant, j'en suis certain. On enchaîne avec peut-être un des contenders pour le match de la soirée, puisqu'il opposait les frangins Uso aux presque frères, hein, de The Bar, Sheamus et Cesaro. Les Uso qui évidemment claquent une grosse promo en mode « si vous êtes The Bar, nous on est les bartenders », donc les barman. Bon voilà, hein, ça passait quoi. Ils étaient cool. Il y avait une intensité, ils étaient cool peu importe ce qu'ils disent finalement. Sheamus lui n'avait pas fini de peindre ses cheveux, enfin je sais pas ce qu'il a essayé de faire là. Il avait sa coupe, son mohawk, ouais. Et le bout du mohawk était blanc en fait, hein, et on ne sait pas trop si c'était peint ou quoi. On aurait dit des pinceaux.
Il a fait ça. Moi, j'imaginais dans les vestiaires Cesaro qui le tenait à l'envers et qui lui trempait dans un pot de peinture.
Une belle image qui s'offre à nous. Merci, Giscard. Voilà. Bon, les premiers échanges s'exécutent. On se rend coup pour coup. Les équipes font parler leur synergie, hein, pour prendre le contrôle du ring. Parce que je rappelle que là, c'est un match pour désigner ni plus ni moins que la meilleure tag team de l'année. Hein. On en avait parlé dans le pré-show. Jimmy qui est martelé avant de s'extirper tout en flip, tag à son frangin qui fait tomber le Marcel mais se bouffe un uppercut par Cesaro qui en distribuera un paquet, hein, ce soir. Il s'en prend un quand même pour bonne mesure, le Suisse. Il en perd d'ailleurs son dentier lors du match, c'était très drôle, il perd son dentier là, il part à la recherche du dentier, heureusement il a retrouvé son dentier, Dieu merci. Cesaro swing, suivi du sharpshooter, car ce soir, les heels, hein, ressortent leur arsenal de face. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais Cesaro, il a fait son Cesaro swing, qui est vraiment son move de face. Ouais. Les Uso faisaient leur cri Uso avec le public, qu'ils avaient complètement laissé tomber avec leur run de heel. Mais ce soir, c'est sûrement match de gala plus deux équipes heel. Les mecs, ils ont lâché les chevaux. L'arsenal était complet. On a ensuite une espèce de méga white noise avec Sheamus et Cesaro. Someone drop à 3. Une espèce de super kick party également sur la fin. La foule est en délire. Sheamus est exécuté, mais avant le tombé final, Jimmy se lance sans raison par-dessus les cordes en faisant le tag à son frère. Sans raison, vous vous dites, eh ben non. Le Samoan atterrit en pleine face de Cesaro qui était à l'extérieur du ring à ce moment-là. C'était très impressionnant. On se demande pourquoi le mec fait un tag en sautant par-dessus la troisième corde à l'extérieur. Ouais, c'est parce que Cesaro s'était replacé habilement juste ici dans un angle mort. Là, c'était vraiment bien filmé pour la peine. Jay place le splash victorieux. Je me trompe peut-être dans les prénoms. Je ne fais jamais l'effort de savoir qui est qui, ce qui n'est pas bien. Et les Uso obtiennent la victoire. Les Uso sont donc la meilleure tag team du monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Ringside?
Tout à fait. C'était phénoménal ce match. On l'attendait, mais là, par contre, ils ont délivré. On l'a eu. Ça, c'était serré. Ça s'est rendu coup pour coup, effectivement. Il y avait des near falls où on a sauté de notre siège. Je trouve que le final est magnifique. Hein, le sauté là de Jimmy Uge là pour faire le tag et l'arrivée sur Cesaro qui se l'est mangé comme je sais pas comme un train qui arrive à pleine vitesse là et du coup de bout en bout c'était mais un petit peu loin
au
démarrer,
début voilà on s'échange c'était pas très
voilà quelques prises de tête là comme on dit headlock mais sinon après voilà ils ont lâché les chevaux le talent était là c'est effectivement on a vu que c'était vraiment les deux meilleures équipes du circuit à l'heure actuelle bon on va pas compter les Young Bucks dedans mais parce qu'ils jouent pas la même partition les Young Bucks les commentateurs c'est Byron Saxton je crois qui mentionne la super kick
ah
party.
Oui d'accord j'avais même pas entendu toi ça m'est venu à l'esprit mais oui. Comme quoi
si. Et c'est quand même des enculés ouais. WWE mais ouais,
c'est, oui c'est juste ce que j'allais dire c'est bonne guerre hein.
Voilà, parce oui, que pour oui, ceux c'est... qui savent pas super kick party c'est un peu le cri de guerre des Young Bucks hein, qui font souvent des enchaînements de super kick à gogo dans tous les sens dans toutes les positions possibles donc voilà maintenant c'était un match qui était spectaculaire c'était super fun il y a rien à redire du beau boulot les Uso effectivement qui s'imposent comme la meilleure équipe et on voit bien que dans les rivalités qu'il y a eu d'un côté à SmackDown comme à Raw les talents ça venait peut-être plutôt de côté de Cesaro et Sheamus d'un côté et des Uso de l'autre parce que le spectacle était au rendez-vous ce qui n'était pas tout à fait le cas chez New Day
c'est un point
Shin,
intéressant
mais on a eu notre match qu'on voulait entre les deux plus grosses équipes du moment donc moi je suis complètement satisfait par ce match
jusqu'à
Pareil. Il n'y a pas eu d'erreur de casting. En effet, tu fais bien de le souligner, Ringside. Ouais. Je pense que c'était les bonnes équipes au bon endroit dans la carte pour le bon match, à savoir les champions, parce que c'est les deux meilleures équipes de l'année. Et c'était, moi, mon match, enfin, spoiler, mais mon préféré de la carte de très, très loin. Je trouvais que c'était magnifique, ce match. Il faudra qu'on se repenche en fin d'année sur les matchs tag team, mais... Franchement, je pense que c'était le match par équipe que j'ai le plus kiffé en pay-per-view cette année. C'était exceptionnel. J'ai été complètement scotché de A à Z. C'est ça qui est très très fort dans un match de cette intensité-là. C'était que t'arrives dans le match avec plein de certitudes et au bout de 5 minutes, elles ont complètement disparu. Elles explosent en plein vol parce que ça part dans tous les sens. Les équipes, elles enchaînent les innovations qu'il n'y a pas eu dans l'opener. Voilà, des... plein de nouveaux moves, plein de contres différents. Tu sens qu'ils sortent le grand jeu. Les near falls, ça part dans tous les sens. Les plans de caméra étaient magnifiquement gérés. Il n'y avait rien à dire, que ce soit au niveau du catch ou de la réalisation. Ce qui fait que ouais, t'es 10 minutes, le match a commencé depuis 10 minutes. Tu ne sais plus du tout qui va gagner. Donc, c'est magnifique. T'es accroché à chaque tombée, à chaque nouvelle prise. Tu te dis que ça va être la bonne. Moi, je trouve que The Bar, ils ont développé... c'est assez particulier parce qu'en fait, The Bar, ils ont réussi à développer, je trouve, une image... Bring où c'est pas qu'ils ont pas vraiment de finisher mais en fait ils ont un tel arsenal de moves à deux que t'as l'impression que le danger peut venir de n'importe où n'importe quand et que en fait le match peut se terminer n'importe quand ce qui est une arme exceptionnelle dans la dramaturgie d'un match parce que du coup les séquences deviennent imprévisibles t'es plus en train de te dire ah oui bah ça y est ils vont faire ça donc à chaque match j'ai l'impression qu'ils arrivent à te sortir un nouveau truc un truc à deux de la troisième corde ou au milieu du ring et tout donc c'est magnifique ce qu'ils ont fait Ouais, voilà, rétrospectivement, on pourra dire merci à Mick Foley. Hein, c'est grâce à lui qu'ils sont ensemble aujourd'hui.
Mick, si tu nous entends.
Et donc, au final, on sort de ce match et on se dit, ouais, voilà, c'était un peu le match pour la suprématie de la division tag team. Qui est la meilleure équipe du monde? Bah, moi, ce que je trouve encore plus incroyable dans ce match, c'est qu'au final, tu sors du match et tu te dis, les Usos, ils ont gagné, mais franchement, je ne saurais même pas dire s'ils sont meilleurs que The Bar, parce que The Bar est vraiment super impressionnant. Donc, moi, c'est magnifique. C'est comme ça que tu devrais toujours booker un match champion versus champion. Et on verra que ce n'est pas le seul de la soirée, et ça fait plaisir. Donc, un grand bravo. Moi, j'ai trouvé un chef-d'œuvre. Je n'ai pas trop compris. Il y a eu des reviews assez tièdes sur Internet, mais moi, j'ai trouvé que c'était magnifique.
Exactement.
Comment ça, des reviews assez tièdes? Non, mais attends. Qui sont ces gens? Je veux des noms, balance des noms. On enchaîne avec, cette fois-ci, les filles, la division féminine, les championnes de Raw et de SmackDown, hein, qui vont en découdre ce soir. Charlotte, très récemment couronnée contre Alexa Bliss, qui domine la division féminine depuis qu'elle a décroché sa première ceinture, tout simplement, puisque elle a rarement passé du temps sans avoir de ceinture autour de la hanche. Alexa Bliss qui use, évidemment, et abuse de toute la fourberie qui la caractérise. Alors, messieurs, vous allez pouvoir m'aider, puisque lorsque j'ai écrit mon résumé, j'ai relu un autre résumé et j'ai vu que Charlotte se serait mangé un escalier ou quelque chose comme ça et que du coup elle était blessée.
Au début du match.
D'accord. Merci, Ringside.
Alexa Bliss l'emmène à l'extérieur, elle l'a fait. Elle lui fait une espèce de torsion du bras qui fait qu'elle s'explose sur le bord du ring. Et après, elle l'envoie contre les escaliers. Elle lui met un dropkick au ras du sol, juste en plein dans les...
Oh bah dis donc, ça doit pas faire du bien, effectivement.
Elle a dû morfler sur le coup.
Ce qui va expliquer finalement une phase de domination d'Alexa Bliss assez importante au début du match, puisque la harne de son adversaire, donc d'Alexa Bliss, la submerge totalement Charlotte. Charlotte fait parler sa force pour reprendre le contrôle, mais c'est l'acharnement d'Alexa Bliss qui ne veut pas lâcher. Il faut une énorme powerbomb et bien plus encore pour allonger Alexa Bliss. Toutes les tentatives de Charlotte finissent contrées. Elle ne parvient pas vraiment à obtenir le momentum dans ce début de match. Même en plaçant son moonsault, là ça ne passe pas. Mais le spear, puis un contre sur le finisher de son adversaire, suivi d'une grosse botte, permettent à Charlotte enfin de placer de son figure 8 pour la gagne dans un match où Alexa Bliss aura tout donné, aura capitalisé justement sur ce coup de l'escalier au début, mais Charlotte est plus forte et Charlotte a gagné. Giscal, qu'as-tu pensé de cet affrontement? Et c'est pareil, on se retrouve un petit peu dans cette même dynamique où... Bon, effectivement, Charlotte, l'année de Charlotte n'est pas pleine, mais on a là probablement deux des meilleures, si ce n'est les deux meilleures catcheuses à l'heure actuelle à la WWE.
Tu as raison un petit peu de planter le décor comme ça, parce qu'on était un petit peu dans la même dynamique, on va dire, que le match précédent. Elles avaient le malheur de passer juste après eux, on va dire. Moi, je trouve que ça a été un petit peu compliqué pour elles de passer juste après ce match-là. Et du coup, sans être, parce que j'ai pas envie d'être trop sévère avec ce match qui était quand même assez correct, c'était par contraste pas vraiment pas un exercice réussi pour le coup. Parce que là, on sort du match, je trouve, pas avec forcément les bonnes impressions. Alors après. Il y avait quand même des bonnes choses. Moi, j'ai beaucoup aimé le final du match. Le finish était très bien fait avec ce natural selection, avec l'angle de caméra un peu en biais là, au ras du ring là, qui était pas mal du tout, et avec le figure eight derrière. Bien joué. Mais sinon, de manière générale, pendant tout le reste du match, j'ai trouvé une Alexa Bliss un peu verte, un peu green dans le ring, qui a fait quelques petites erreurs. La plus moche qui m'a un peu sorti du truc, moi perso, c'était... Quand elle va faire le tomber sur Charlotte, tu sens qu'elle se place au bord du ring parce que Charlotte va mettre le pied sur la corde et elle se retient. Je sais pas si vous avez vu, mais elle se retient de prendre la jambe qui est à l'extérieur, qui du coup est celle que Charlotte va mettre sur la corde. Et tu vois qu'elle va la prendre et elle change d'avis pour prendre l'autre jambe. Donc là, c'est clairement une erreur un peu de débutant qui est dommage parce que je trouve que ça gâche le spot, ça téléphone le truc. Et de manière générale, je l'ai trouvé un peu approximatif pendant le match. Donc voilà, j'ai pas trouvé qu'elle était vraiment au niveau de ce qu'on vendait, à savoir la double championne SmackDown Raw versus la Grand Slam championne des femmes et tout. Donc un poil déçu de cet affrontement qui restait quand même, je trouve, pour un match de la division féminine en 2017, parce qu'on n'a pas quand même été trop gâté cette année non plus, était de très bonne facture, sans doute au-dessus de la moyenne de ce qu'on a pu voir dans l'année sans problème. Mais voilà, ils ont pêché par l'approximation, ils ont pêché aussi par le fait leur positionnement dans la carte. Voilà, bon, un peu déçu.
Bon, alors, ringside.
Ah, moi, je serais beaucoup plus dithyrambique que Giscard. J'ai adoré ce match. J'ai trouvé qu'Alexa Bliss avait carrément monté le niveau. Charlotte, elle m'a beaucoup manqué tout au long de l'année. Je suis quand même un gros, gros fan de Charlotte. Je m'en rends compte maintenant. La confrontation, on n'était pas d'égal à égal parce qu'Alexa Bliss, elle est quand même largement en dessous de Charlotte. Au niveau de ce qu'on peut, de comment on pouvait monter nos paris, quoi. C'était évident que Charlotte allait gagner. Elle est beaucoup plus costaud, hein, elle fait deux fois la taille d'Alexa Bliss. Alexa Bliss, elle n'est pas connue pour une technique phénoménale. J'ai trouvé ça très intelligent de la faire prendre l'avantage en début de match grâce à l'utilisation des escaliers, des bons petits coups en traître. Charlotte, elle a vendu les côtes pendant tout le match. C'était vraiment très très bien joué, et très très bien foutu. Alors ouais, il y a eu quelques botches sur quelques prises, mais c'est sur des prises à haut risque, hein, des prises qui n'étaient pas faciles à exécuter. Moi, ça m'a pas gêné. Je me suis pas ennuyé une seconde non plus. Je suis vraiment content de revoir Charlotte comme ça au sommet de la division, et Alexa Bliss qui a monté le niveau. Moi, j'avais beaucoup aussi de réserves sur Alexa Bliss. Là, moi, je trouve que ce soir, elle a montré qu'elle pouvait tenir un match comme ça de prestige. Elle en est sortie aussi grandie parce qu'elle a vraiment donné du fil à retordre à Charlotte. Le finish était plutôt bien foutu, même si c'est dommage qu'il n'y a pas eu de travail sur la jambe d'Alexa Bliss tout au long du match.
Ouais, j'ai trouvé aussi. Hein.
Le petit botch de la jambe là, quand elle est près des cordes, Charlotte, il y a aussi la réalisation qui rentre en ligne de compte. Ça aurait été filmé sous un autre angle, on s'en serait peut-être moins rendu compte. C'est déjà bien qu'elle ne s'est pas trompée de jambe quand elle a... Parce qu'il y en a d'autres qui se seraient trompées de jambe. Hein. Donc, tant qu'à faire, c'est pas si grave que ça. Non, pour moi, je suis plutôt sur une réussite totale. Les deux sont sortis grandis. Charlotte réimposée comme la patronne du roster. Pour moi, ça efface un peu les mois et les mois de booking de merde de la division féminine de SmackDown. Puis ça confirme qu'Alexa Bliss est quelque part le bon choix aussi du côté de Raw. Voilà, non, moi je suis plutôt satisfait de ce match. On voit qu'il y a un des meilleurs de l'année au niveau des divisions féminines, tout confondu.
Bon, eh bien...
Tant mieux.
Ouais, ouais, moi je rejoins un peu la vie de ringside. Hein. Je trouvais que c'était un bon match et que Alexa Bliss a vraiment bien tiré son épingle du jeu. Elle avait beaucoup de hargne, hein. Bon, c'est censé faire partie de son personnage. Ouais, je trouvais qu'effectivement cette blessure au début de match a plutôt bien aidé, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même de faire de... Et en fait, Charlotte est souvent blessée dans ses matchs pour nous vendre
c'est vrai qu'elle a un gabarit,
sa défaite, ou en tout cas sa difficulté à plier le match en 5 minutes, quoi, face à...
il y aurait eu un squash, ça nous aurait pas choqué, un squash de Charlotte, un big boot dans la face d'Alexa Bliss, 1-2-3, ouais. Ça aurait pu passer, ouais. Aussi, hein.
Bah, ça nous aurait choqué, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, quand on en fait. Mais oui, effectivement, Charlotte est un monstre, quoi. C'est elle le vrai monstre de la division féminine. Et c'est vrai que là, alors du coup, c'est pas un reproche, mais attention à ne pas trop abuser de cette petite ficelle là de blesser Charlotte. Bon, après, on l'a pas trop vu Charlotte dans des gros programmes cette année, donc ça s'est pas trop ressenti. Mais face à son dernier programme qui était face à l'Italienne, nous avait sorti la même chose. Elle se fait blesser et après, du coup, le match est équilibré. Bon, à un moment, faut arrêter de se blesser. Et voilà, surtout qu'elle a l'air de bien s'entraîner, elle fait des pubs pour Tap Out, alors c'est que elle est prête. Elle a l'air solide. Bon, messieurs, on enchaîne avec un autre match où il y avait au moins un monstre, peut-être même deux. Tout dépend comment on identifie la monstruosité d'un être.
Oui.
Puisque AJ Styles va se frotter à Brock Lesnar, hein, qui a droit à son introduction de Paul Heyman. On a un petit duel de levée de ceinture, bataille de champ, AJ Styles versus Suplex City. La salle est chaude, bouillante, et c'est parti pour le sale moment pour AJ Styles, hein. On se souvient que les 5 premières minutes, si tu survis aux 5 premières minutes de face à Brock Lesnar, tu as une petite chance de peut-être faire un tombé de 2.
Tu passes de... voilà.
Alors il se bouffe des coups de genou, des coups de coude, hein, il est balancé dans tous les coins, et quand on connaît AJ Styles, ça voltige dans tous les sens, le selling est au top, hein, là. Vous entrez dans Suplex City, chaque partie du corps du champion mondial est broyée, brisée, détruite. Il se bouffe la table des commentateurs, je crois la façon la plus brutale possible, parce que il lui éclate la tronche, et alors qu'il est à 20 cm de la table, et il l'envoie à fond, quoi. Je pense que vraiment là c'était il a failli se péter un truc. Il retombe ensuite sur des endroits du corps sur le on devrait pas retomber, hein, AJ Styles, c'est pas bien de retomber comme ça là un peu n'importe comment. Mais au bout de 5 minutes, une ouverture apparaît et AJ Styles place un enchaînement de coups de poing. Brock se brise le genou sur le turnbuckle parce qu'il fonce à fond et évidemment il fait son gros coup de genou là en sautant et là ça tape dans le turnbuckle. AJ Styles, il est pas con. Il se met par terre, il lui pète les chevilles en faisant des bons coups de pied là, des belles balayettes à l'ancienne. Il déroule ensuite son arsenal sur la bête hein, qui vacille quand AJ Styles bondit sur ses épaules. Il place alors là c'était un peu botché, hein, une espèce de tornado DDT là, où on monte difficilement sur les cordes et puis on sait pas trop qui devait placer quoi. Bon, Brock Lesnar est à terre, il se bouffe un peu les kicks au sol. Donc vraiment, AJ Styles hein, fait tout pour maintenir Brock Lesnar le plus bas possible. C'est le moment, il arme le phénoménal forearm, mais Brock Lesnar le contre en une énorme souplesse aérienne qui envoie AJ Styles sur le ventre et il fait un petit 360 degrés là, AJ Styles. La bête hein, finit à l'extérieur et se bouffe ensuite enfin le phénoménal forearm. La bête rampe autour du ring hein, et devient proie puisque AJ Styles enchaîne les coups. Et on a ensuite un formidable 450 degrés splash. Tentative de F5 mais c'est contré en Calf Crusher. La prise de soumission pardon de AJ Styles. La bête est rouge. La bête est blanche. Il en a vu de toutes les couleurs sur tous deux. Hein, le visage de... Ça va faire des gifs là pour les siècles et des siècles à venir. Brock Lesnar est en souffrance. La bête va abandonner. Mais non. La bête attrape la tête de AJ Styles et l'explose sur le ring. Ça, c'était une violence assez extraordinaire. On peut apercevoir alors des bouts de cervelle hein, de AJ Styles un peu partout dans le ring. C'était ça. AJ Styles qui parvient quand même à lancer le second forearm, mais c'est contré, et là c'est bel et bien contré, le F5 claque, 1, 2, 3, Brock Lesnar, bah AJ Styles, il faudra être plus que phénoménal pour obtenir la tête de la bête. Giscal, est-ce que tu as aimé cette partie de chasse?
C'était incroyable.
La chasse au dain, c'était une belle
superbe.
Chasse au dain.
Ouais, on est à court de superlatifs pour AJ Styles en fait dans ces cas-là. C'était extraordinaire. Alors c'était pas mon match de la soirée. En tout cas, il était peut-être pas loin d'être ex-aequo avec les Usos et The Bar, mais pff, c'était fantastique. Franchement, j'aime pas avoir ce genre de conclusion parce que enfin de toute façon c'est jamais vrai. Il faut toujours être deux pour faire un bon match et ça c'est invariable et c'est immuable dans le catch. Mais s'il y en a bien un qui sait comment faire pencher la balance en faveur de l'excellent et du phénoménal, c'est vraiment AJ Styles. Moi, je continue de le découvrir parce qu'au final, je le connais depuis 2 ans ce mec-là. Mais c'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire dans le ring pour transformer son adversaire en un paquet de d'argent quoi, comme ils disent les Américains. Bah, vraiment déjà Brock Lesnar c'est du box office, c'est de la thune, mais là Brock Lesnar face à AJ Styles, t'as l'impression que c'est le Minotaur, c'est un mec qui est indestructible, qui a une puissance incroyable, tellement tellement AJ Styles a cette capacité à bumper. C'est exceptionnel de sceller comme ça, comme il sait faire. C'est le moindre coup, on a l'impression qu'il se fait décrocher la mâchoire, mais c'est jamais dans l'excès, c'est jamais surjoué, c'est jamais malaisant, c'est toujours exceptionnel.
Ça reste toujours esthétique, hein, c'est ça qui est
incroyable. Ça reste toujours super esthétique, il n'y a rien qui dépasse, c'est la perfection à chaque fois dans ces sellings, dans ces bumps. Donc du coup, ça transforme un match qui aurait pu être un bon match avec un Brock Lesnar dominant, de toute manière, il est là pour ça. On aime voir Brock Lesnar comme ça, c'est la bête, il est là pour envoyer du pâté. Mais ça aurait pu juste être ça, mais non, ça a été 10 fois plus parce que AJ Styles a transformé chaque move et chaque souplesse de Brock Lesnar en un événement en soi à chaque fois. C'est ça qui est exceptionnel. Et puis aussi, ils n'ont pas fait l'erreur, et donc ça, c'est pour ça que je trouve que j'ai un peu. Je disais que Shield, Uso et The Bar, c'était pas le seul match champion contre champion qui a été magnifiquement booké. C'est parce qu'ils n'ont pas fait l'erreur non plus de transformer ça en un déroulé de capacité physique de Brock Lesnar. Mais AJ Styles a eu une très belle période de domination, et une période de domination qui était crédible parce qu'elle jouait sur ses forces. C'était rapide, c'était létal, c'était précis, c'était vraiment super plaisant. Donc du coup, on y croyait. Et in fine, comme tu l'as dit, ta conclusion résume bien le match et je pense le message qu'ils ont voulu faire passer, c'est que il va falloir être plus que phénoménal en effet pour battre Brock Lesnar. C'était l'objectif du match. C'était personnellement, moi, il y avait aucun suspense pour le résultat de ce match, mais c'était l'objectif. Il fallait que Brock Lesnar sorte au top et que AJ Styles le fasse briller de mille feux. Et le truc qui a été très fort, c'est qu'il a réussi au passage à encore plus s'affirmer comme étant, je pense, le meilleur catcheur du roster actuellement, facile. Donc c'est un modèle du genre ce match, c'est magnifique.
Et toi ringside, alors après peut-être la petite déception hein, du précédent match de Brock Lesnar face à Braun Strowman, est-ce que là tu es content? Est-ce que tu es ravi?
Je suis rassasié. C'était encore une fois phénoménal. Effectivement, comme dit Giscal, on va manquer de superlatif tellement ça a été percutant, tellement ça a été réussi. Faut saluer outre le travail exceptionnel de AJ Styles, hein, qui est, on le sait, hein, le meilleur catcheur du monde. Alors, il y a Kenny Omega, mais ouais, Kenny Omega il est plus jeune, donc ça lui donne un petit avantage. Mais
je connais pas.
Tu le connaîtras quand il arrivera d'ici 2-3 ans. Tu diras c'est super. Il faut saluer quand même le travail de Brock Lesnar.
Ah, évidemment.
Les doigts du popotin, comme on dit, et qui a cette capacité aussi de faire croire qu'il est en train de démonter son adversaire comme personne. Il y a beaucoup de gens. Moi, je lis beaucoup de personnes sur Internet qui disent ah ouais. Brock Lesnar, c'est déjà, il aime pas le catch, il vient là pour le pognon, comme si les autres venaient pour la beauté du geste.
Oui.
Et il est pas safe, il fait pas attention à cet adversaire, etc., etc. Alors que Brock Lesnar, il a jamais blessé personne. C'est simplement que c'est un excellent performeur et que quand il fait son catch, t'as vraiment l'impression qu'il détruit son adversaire. Il y a pas beaucoup de catcheurs qui donnent un tel réalisme à leur coup dans le ring, à leur période de domination. Il y avait des personnes comme ça, comme Steve Austin à l'époque, où quand il se foutait sur la gueule, qu'il démontait ses adversaires, on avait vraiment l'impression que c'était une bagarre de rue. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Souvent, c'est très chorégraphié. On y croit parce qu'on est dans la suspension d'incrédulité, comme on dit. Mais là, avec Brock Lesnar, on a vraiment l'impression qu'il est en train de tuer l'adversaire qu'il a face à lui. Et pareil, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent qu'il s'est réellement blessé le genou quand il a fait son écrasement dans le poil du ring. Alors que ça, c'est son selling qui est si exceptionnel.
L'un des meilleurs sellings du.
C'est vrai, c'est vrai, il faut le souligner.
Hein, Brock Lesnar.
Il est très, très fort. Hein.
Donc, ça, chapeau aux deux qui ont fait vraiment un des, pour moi encore, peut-être le match de l'année ou un des matchs de l'année. Voilà, il sera dans le top. On avait beaucoup de craintes sur le match. Effectivement, il avait déçu. Sur ces deux dernières expositions, Lesnar. Mais bon, voilà, d'un côté, il y avait un premier booking qui n'était pas très bon face à Samoa Joe. De l'autre, il y a eu un gros botch à mi-parcours qui est peut-être plus dur à Strowman qu'autre chose, qui est quand même encore assez green. Là, on a deux vétérans dans le ring qui nous sortent Un match où on était scotché de bout en bout. Toute la période de domination du début, on se serait cru dans le John Cena Lesnar de l'époque. Où,
ouais.
Du coup, on pensait peut-être que du coup, il en ferait qu'une bouchée finalement. Et puis, ça s'est retourné. Là, AJ Styles qui commence à dérouler son catch avec des prises pareilles, des déroulés qu'il n'a jamais fait. Quand il fait son pelé kick là, à ras du sol sur la
magnifique,
tête.
Magnifique ça. Ouais.
Lesnar, c'était exceptionnel. Donc du coup moi je suis sorti ravi, on a été jusqu'au bout dans la tension, dans le suspense.
Et Jinder Mahal n'est pas intervenu.
Jinder Mahal n'est pas intervenu.
Alors maintenant je claque des dents, je suis très peur, je tremble ce soir à SmackDown parce qu'il va y avoir le match revanche. Mais c'est pareil, c'est un match
on voit.
Oublier les 6 mois de booking affreux de Jinder Mahal. Ah,
Je regrette quand même que ce match n'ait pas eu lieu, mais bon, tant pis. Écoute,
ça m'aurait bien plu de voir Jinder Mahal se faire dégommer.
Bien sûr,
ça aurait plu à tout le monde.
Si, balader, si de là, peut-être.
Moi,
je voulais les deux.
Je voulais Jinder Mahal contre Brock Lesnar et après Jester.
Je
suis d'accord avec toi. Après, le problème, c'est que Jinder Mahal, après, en weekly, c'est relou.
Oui.
Se le farcir toutes les semaines, c'est relou.
Quand même le temps que ça s'arrête, quoi, Jinder Mahal. Mais
c'est bien. Du coup, tu as raison de contrebalancer parce qu'il faut saluer Lesnar dans ce match-là. Et puis un truc que je dis parce que j'en ai pas parlé.
C'est le moment. Tu as le micro.
Je stressais les louanges de AJ Styles, mais parce que j'ai l'impression qu'avec IRM, on le dit chaque semaine au supplément SmackDown à chaque fois qu'il y a un match de AJ Styles. Mais je l'ai pas dit parce que j'ai oublié, mais c'est moi il me sidère parce que à chaque fois son calf crusher il arrive à le mettre d'une façon différente, c'est incroyable.
Ouais,
il trouve toujours le moyen de s'enrouler autour de la jambe de son adversaire d'une manière différente, soit en retombant de ses épaules, soit en s'enroulant par derrière, par devant, sur le côté. C'est incroyable, c'est ce genre de truc aussi qui te montre un peu la science du ring, le génie du ring. Dans toujours la façon d'innover, de renouveler des prises qui pourtant font partie de son arsenal depuis toujours.
Tu le mets dans un cubit de vin, il te fait un 450 splash, toi. Il arrive, il a pas besoin de beaucoup d'espace. Je pense qu'il devait s'entraîner dans une petite boîte, dans un dojo japonais, un peu comme dans Kill Bill, quoi. Elle apprend, enfin, qu'elle veut casser le cercueil, là. Pas beaucoup d'espace.
Avec des poids. Au poignet,
évidemment. Bon, messieurs, ça c'était même pas le main event. Le vrai main event arrive. Et là,
on est à
3 partout.
Hein.
Merci Giscal de tenir les comptes, c'est vrai. Et c'est important puisque, comme je vous l'ai dit en début d'analyse, la WWE nous le rappelle à chaque fois, on a le petit compteur, on arrivait à un 3 partout. On avait dit, j'avais dit dans le pré-show que c'était pas quelque chose qu'il fallait forcément prendre en compte pour les pronos, mais là, visiblement, la WWE a décidé que c'était important, du coup, elle a affiché le score et nous sommes donc à égalité, 3 partout. Et là, donc, on a la team Raw versus la team SmackDown chez les hommes. Alors, 15 minutes pour les entrées, évidemment, dont 5 pour Triple H. On a un petit tout suite, genre on ne l'a pas vu, quoi, entre Triple H et Finn Balor. Et John Cena est là, et John Cena arrive habillé en vert pour l'occasion, pour rejoindre la team bleue. Bravo, John, vraiment, le free agent jusqu'au bout, le mec. Le mec, il a des t-shirts de toutes les couleurs, il est pas foutu d'en prendre un bleu pour venir ce soir.
Ouais, j'ai honte.
Moi, sur le coup, ça m'a énervé, puis après, je suis allé se tomber. Mais ils vont jusqu'au bout du truc, ils veulent la jouer vraiment en mode free agent.
Ah, ça fait un moment qu'il avait pas regardé l'émission. Personne l'avait prévenu.
Et en tout cas, je me souviens d'un petit, d'un commentaire, je crois que c'était Guillaume sur le chat du pré-show qui disait que qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. Une vision puisque John Cena était tout de vert vêtu. C'est Shane qui commence les hostilités en attaquant Braun Strowman par derrière avant de se faire envoyer dans les cordes comme un vieux torchon sous les rires de Triple H. Shane McMahon, il n'a pas compris qu'il s'est fait éjecter par Braun Strowman. Triple H qui se fera un malin plaisir à affronter ensuite ses anciens protégés de NXT. En fait, il y a plein de match-up auxquels on n'avait pas forcément pensé, même lors du pré-show, qui se sont dévoilés d'eux-mêmes. C'est vrai que Triple H, qui était à la fois aux côtés, mais également en face de ses anciens protégés de NXT, hein, Nakamura et Bobby Roode d'un côté, et puis évidemment Samoa Joe et Finn Balor de l'autre. C'était plutôt intéressant. Bobby Roode justement qui fait un petit duel là de Glorious et de Suckit qui était assez marrant. Bon, de toute façon, c'est un match, c'était un peu au show, hein, ce main event, c'était vraiment un match de gala. C'est Kurt Angle ensuite qui prend le relais. Ensuite, attendez, j'ai perdu le short. Kurt Angle, difficile pour lui, hein, ce soir. Il avait quand même sorti sa belle tenue là, de tout étoilé, la grenouillère étoilée.
Là.
On a, alors attendez, je reprends mon déroulé. Joe et Orton ensuite qui sont là. Alors je sais pas si c'était à ce moment-là. Je crois que je suis un peu revenu en arrière. Samoa Joe et Orton effectivement qui se mettent sur la tronche. Orton qui a teasé le RKO. On a des champs NXT évidemment. Donc je disais un Triple H qui se retrouve donc face à Nakamura et Bobby Roode, le papa hein, de NXT. Alors Kurt Angle donc qui entre, qui place ses German Suplex, le Angle Slam est contré, Nakamura entre, il prend à partie il éjecte Triple H et Angle. Il envoie ensuite Braun Strowman au sol, il balance des kicks hein, sur Angle. Joe entre, mais Nakamura, qu'est-ce qu'il fait Nakamura? Il lui saute dessus.
Il finit par se faire éliminer quand même à un moment donné, il me semble.
Oui, c'est ça. Ensuite, Nakamura et Triple H donc se mettent sur la tronche. Kinshasa sur Triple H, mais Braun, vous me dites si je me trompe parce que là je reprends un autre résumé parce que j'étais tellement dedans qu'en fait j'avais lâché le mien. Braun Strowman entre enfin, Braun Strowman évidemment le monstre, hein, l'arme ultime de Kurt Angle. Nakamura qui place un coup de genou. Braun Strowman place son Running Power Slam et Nakamura est éliminé, c'est bien ça, oui, tout à fait. Bobby Roode qui place le Blockbuster sur Braun, mais il manque le second et Braun rebelote Power Slam pour l'élimination. Et ouais, Braun Strowman fait un peu le ménage. Et là, on a le début des embrouilles puisque Samoa Joe et Braun Strowman s'engueule. Samoa Joe a fait le tag à l'aveugle. Il est pas content. Angle essaye de faire, de faire le modérateur. Et là, Triple H, hop, 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 de quoi tu te mêles? Laisse le battre. Hein, Samoa Joe, c'est aussi un petit peu son boy. Et évidemment, on a le début de ce qu'on imaginait. La petite engueulade entre Triple H et Angle, même si ça a déjà commencé quand il a porté le pedigree sur son fils bâtard. Voilà.
Ouais, c'est
Orton ensuite arrive. Et là, c'était pareil. Orton et Cena ensemble face à Triple H. Il y avait vraiment des match-ups super. Qui se sont révélés au fur et à mesure. C'était super, j'ai adoré moi ce passage avec Orton et Cena qui ont fait la paire là, eux qui on les a souvent tellement vus face à face ces dernières années que les voir ensemble ils ont kiffé. Franchement, ça s'est vu tous les deux, ils ont travaillé intelligemment hein, puisqu'ils se connaissent depuis tellement longtemps hein, depuis des territoires de développement. Braun qui s'en prend à Cena et Orton. Braun qui prépare la table d'annonceurs. Maintenant ils ont des petites tablettes, ils ont plus les petits écrans télé, donc c'est plus pratique. Mais John Cena et Orton attaquent et Bobby Roode et Nakamura reviennent pour aider Braun, pour justement retourner Braun à travers la table. Shane revient, Samoa Joe s'en débarrasse, il le place dans le clutch, mais Shane parvient à s'échapper. Cena entre, petit duel entre Cena et Joe. On fait des petits tombés de deux. Samoa prend, il place son, qu'est-ce que c'est ça, STGO, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce résumé? Balor qui entre, si jamais je lis un résumé, je ne sais pas du tout si c'est des vrais noms de prise. Et Joe, effectivement, Joe et Balor se prennent la tête encore, enfin Joe il se prend la tête avec tout le monde, il a pas l'air commode ce petit Samant. John Cena place son AA. Et il en met un sur Balor. Voilà. Et un autre encore sur Joe. Et Joe est terminé. Il est sorti. Angle n'est pas content. Et là, on a enfin le face-à-face Angle-Cena. Là, on est ramené à des décennies en arrière. Hein. la Rusev Aggression. Ouais. Donc, hein, le premier match de John Cena dans le.
La Rusev Aggression.
Je pensais à Rusev, en plus, il est pauvre, il était pas là ce soir. Il nous aura manqué. Bon, voilà.
Plus c'était le Rusev Day.
Rusev Day hier.
Oui, c'était le Rusev Day en plus. Joyeux
oui,
Rusev Day à
le
tous.
Rusev Day, ouais. Tous évidemment. Bon là, ça se calme un petit peu à ce moment-là. Une gueule, voilà, c'est plus doux. Hein. Il y a plus de douceur parce que bon, faut aller doucement avec papy, faut pas le casser. Et c'est difficile pour lui. Mais voilà, on échange des coups de coude. Protobomb, Five Knuckle Shuffle, mais ça passe pas puisque c'est transformé en Ankle Lock. Cena s'échappe, mais Angle place le Angle Slam. Shane mais fait le save et là Balor place son double foot stomp, Angle Slam rebolote et sur John Cena 1-2-3, le Free Agent, le Joker, l'homme qui allait donner la victoire à la team bleue est éliminé. Orton est de retour, il stomp sur Angle, c'est Balor qui rentre. Tac, tac, tac. Il place encore sur double stomp. Il en a passé combien? C'est pas possible. Shane est sorti avec un dropkick. Balor qui place son sling blade. Il manque son double stomp. C'est ça de vouloir en faire trop dans un match, monsieur Balor. Et le RKO out of nowhere pour sortir Finn Balor. C'est fini. Le petit démon est sorti. Triple H arrive. Il s'en prend à Orton. La Evolution, c'est terminé. Tag in sur Angle, mais Orton, ils se rendent tous les trois ils sont tous les trois au sol. Shane est toujours là, mais qui arrive, qui débarque? Les petits Canadiens, Sami et Kevin. Sami et Kevin. Évidemment, on s'y attendait. Bon, c'était pas une grosse intervention. Il commence à attaquer Shane, lui donne des coups. Shane va chercher une chaise et à partir de là, il les fait fuir et on les reverra plus. C'était franchement super, les gars. Bravo. C'était bien préparé votre plan là. Et t'as Shane qui reste en dessous du Titantron avec sa chaise pour les empêcher de revenir. Mais on en rigole, mais c'est important parce qu'en fait, finalement, il abandonne un petit peu son équipe. Il la laisse à son propre sort. Et du coup, ça va quasiment leur coûter la victoire. Braun est de retour. Power Slam sur Orton, qui est sorti du coup. Ah ouais, Braun a sorti tout le monde.
Et oui.
Allez, la vache. Dégage,
il ne reste donc plus que Shane. Et ouais, là, ça fait plaisir puisqu'il reste Triple H, Angle, Shane et Braun Strowman. Donc voilà. Hein, pas doué la team bleue. Et Shane revient. Il sait pas trop ce qui va se passer. Et là. Ça commence, voilà, la dramaturgie totale, les 3-4 mois, la route à WrestleMania s'écrit devant nos yeux. Triple H, ouais, Shakespeare. Triple H se tag pour rentrer. Braun n'est pas content. Angle se tag à son tour. Triple H n'est pas content. Il s'engueule. Shane tente le roll-up sur Angle, ça ne passe pas. Il met des coups à droite à gauche et enfin, voilà, à la chaîne McMahon, on tente à plusieurs fois de faire des tombées. Angle place le Angle Slam et le Angle Lock. Shane ne lâche pas, mais Triple H entre et pedigree sur Kurt Angle. Il place alors Shane McMahon sur Kurt Angle, donc Kurt Angle est éliminé. Triple H et Braun sont là. Triple H est aux côtés de Shane McMahon. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Triple H était en fait avec Shane McMahon depuis le début? Shane McMahon n'a pas l'air de comprendre ce qui va se passer. Et puis bon, allez, on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Triple H relève Shane et le place un pedigree. 1, 2, 3, c'est fini. Victoire de la team rouge. Braun Strowman et Triple H sont les deux derniers survivants. Mais ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à Braun Strowman. Il est pas content. Il est pas content d'avoir été comme ça manipulé par Triple H. Triple H qui fait, allez, vas-y, profite de la victoire. C'est comme ça, Cérébral Assassin. C'est comme ça que ça se passe. Profite. Mais cette fois-ci, hein, on se souvient, Triple H a beaucoup aidé, hein, dans des gros pay-per-view ces deux dernières années. C'est lui qui a souvent offert la victoire à certains de ses, des jeunes, aux jeunes poulains. Mais Braun Strowman ne mange pas de ce pain-là. Et Braun Strowman attrape Triple H au col, dans l'angle, dans le turnbuckle. Triple H, là, la gueule de Triple H qui tire, là, il comprend pas ce qui lui arrive. Bronsoman est en train de l'étrangler, il lui gueule, il lui crache dessus même, en lui disant, écoute, c'est pas bien ce que t'as fait, je suis pas content, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, il lui place, deux ou trois power slam, là, pour faire bonne mesure.
Deux, ouais.
Parce que Triple H s'attaque dans le dos quand il s'en
évidemment, va. Évidemment. Ouais. Cette fripouille de Triple H. Ouais. Et donc voilà, ça paraît long. Pourquoi ? Parce que c'était long. Et surtout à la fin, ça a eu du mal un petit peu à se décanter quand même cette histoire. Messieurs, il y a eu à boire et à manger hein, dans ce match. Même s'il n'y a pas forcément eu beaucoup de catch, enfin de lutte, de haute volée. Qui est chaud là pour en parler en premier ? Giscal ? Ouais. T'es chaud?
Bah écoute, allons-y. Alors ouais, en effet, il y a eu à boire et à manger, c'était très long. Moi, j'ai plutôt aimé. Alors, je pense que là, on est dans le prototype, comme beaucoup de pay-per-view, hein, mais on est dans le prototype du main event un peu à la WWE qui divisera, je pense. C'est du main event spectacle WWE avec de l'overbooking, avec des swerves, des retournements de situation un peu incroyables, plus des moments que vraiment du catch. Ouais. En même temps, c'était cousu de fil blanc hein, avec le line-up qu'ils avaient dans ce match-là. On savait qu'on allait avoir plutôt un enchaînement. Un enchaînement de face à face, quelques signature moves, quelques rappels à l'histoire ou des petits teasings sympas plutôt que un match toute voile dehors de pure technique pendant 40 minutes. Donc ça, c'était évident, faut pas se voiler la face. Fallait pas non plus se voiler la face en se disant que j'espère que Triple H et Kurt Angle et Shane McMahon vont pas tirer la couverture à eux. C'est bien d'avoir les petits jeunes et tout. Pareil, je pense que si on rentre dans ce match-là avec ça en tête, c'est que déjà on n'a rien compris. Et que en plus, vous êtes trompés de show, les gars, parce que l'histoire était de base écrite depuis des semaines autour d'une histoire. C'est la guerre des choses, c'est la guerre des McMahon, c'est la guerre des GM. Donc c'était évident que ça se finirait comme ça. J'ai trouvé ça d'ailleurs personnellement plutôt pas mal cette fin. Moi, elle m'a stoppé un peu dans mon élan devant la télé. J'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce que Triple H va encore nous sortir ? Est-ce qu'il va faire rentrer Strowman pour faire le tomber un peu à la Kevin Owens ou un truc comme ça ? Est-ce qu'il va rallier SmackDown dans un retournement complètement imprévu ? Enfin, voilà, il y a eu un petit moment de flottement de tension qui a marché sur moi personnellement. J'ai trouvé ça pas mal. De manière générale, dans le match, j'ai été assez sensible à tous ces clins d'œil de l'histoire, à tous ces petits teasings et tout. J'ai trouvé ça très sympa. Donc, on va dire que le package, l'enveloppe de ce main event plutôt bien plu, j'ai passé un bon moment. Après, il y avait vraiment des trucs qui m'ont énervé ponctuellement, en fait. Il y avait des petites choses à commencer dès le début, tu l'as dit, mais moi c'est éliminatoire, hein, le t-shirt vert de John, le carton vert là pour John Cena. Ça, tout le monde a joué le jeu pendant le pay-per-view, ouais. Tout le monde, genre lui
même
non,
Triple H, il avait un t-shirt rouge, alors c'était pas Raw, mais il avait un t-shirt rouge avec son
Alors, on n'en a pas parlé pendant le match d'avant. J'ai trouvé ça personnellement très bien que pour l'aura du match, il préserve AJ Styles et Brock Lesnar de ces histoires de catcher avec un t-shirt à la con. Parce que bon, merci quand même, ça va deux secondes. Mais par contre, au-delà de ça, voilà, John Cena, déjà qu'il en a rien à faire, il avait rien à faire là. Et, t-shirt. D'ailleurs, pendant tout le match, moi, j'ai trouvé, si je devais mettre un carton à quelqu'un, ce serait John Cena pendant ce match. Parce que je trouvais qu'il en avait
un peu
rien
cartoon,
à foutre.
Il
passait son temps à jouer. Ouais, il posait son temps au bord du ring à taper dans les mains, jouer avec le public. Il en avait un. Tu sens. En fait, il colle. Mais on l'avait déjà dit hein, la semaine d'avant. Il ne colle pas dans l'histoire. Il avait rien à faire là. Et du coup, partant du principe qu'il n'avait rien à faire là, j'ai trouvé un peu dommage qu'il se paye le scalp de Joe et Finn Balor en leur collant des attitudes à James, des AA à l'appel. Parce qu'au final, comme il n'a fait que passer un peu comme un fantôme dans ce match. Il était là pour faire le clin d'œil avec Kurt Angle, grosso modo. Alors, il n'y avait pas forcément la peine de lui filer ce truc-là. Autre truc, d'ailleurs, qui m'a un peu agacé, c'était la période... Enfin, ça ne m'a pas agacé, c'est plus pour le pauvre Kurt Angle. C'est compliqué, quand même, dans le ring.
Avec ses jambes arquées, hein.
C'est pas évident. C'était pas évident hier soir, pas évident du tout. Il a pas fait une très, très belle prestation. Donc bon, ça c'était pas extra. Et puis un autre truc pour finir, c'était sur le finish. Alors moi j'aimais bien le côté Shane McMahon qui se retrouve, bah écoute, il s'est
ouais,
fait baiser.
Hein,
Shane
il
McMahon,
est allé jusqu'au bout, il a lâché son équipe.
Il se retrouve pris à son propre piège là. Il est tout seul face au trio infernal d'Euro. Donc ça j'aimais bien le déroulé. Mais alors par contre, je suis désolé, mais la période de, on aurait pu aussi se dispenser de la période de bravado là de Shane McMahon. Contre Kurt Angle qui a cette sorte de rébellion là, parce qu'au final qu'est-ce que t'es en train de montrer, t'es en train de montrer que Shane McMahon est en train de out-wrestle Kurt Angle qui est censé être un Olympic gold medalist, super technique, légende, super catcher et tout, t'es en train de montrer que Shane est plus rapide, plus technique, mieux, parce que genre il lui a fait un déroulé de catch hein, Shane McMahon ouais, à Kurt Angle hein. Kurt Angle il s'est donné de la tête. Pendant 5 minutes, il était complètement dépassé. Il se prenait des clés de bras, des bras à la volée, des trucs, un festival. Ça, j'ai trouvé que cette séquence était largement dispensable et pas du tout productive dans ce qu'ils veulent faire de Kurt Angle pour après. Donc voilà, c'était un peu mes 3 cartons rouges parce que sinon, de manière générale, je vais laisser la parole à Ringside qui aura sûrement plein de trucs à dire aussi. Mais voilà, il y avait des bons moments, il y avait des bons petits coups d'œil, des bons petits clins d'œil, des bons petits. Des bons enchaînements de finishers, c'était sympa. Donc un main event logoté estampillé WWE qui m'a fait finir la soirée en content.
Ouais, c'était, il y avait beaucoup d'intrigues à résoudre dans ce match-là. Il y avait beaucoup de participants dans tous les sens avec chacun une histoire à raconter. C'est la force et la faiblesse un peu de ce main event parce que du coup c'est très scénarisé. Il y a beaucoup de gens qui crient sur le fait qu'effectivement, donc c'est les anciens qui ont pris le contrôle du match à la fin. Ça, effectivement, c'était assez évident. Et moi, je trouve qu'ils ont plutôt bien traité les jeunes qui ont leur temps de domination. Nakamura a mis la tête à l'équipe d'Euro pendant un bon moment dans le ring avant de se faire éliminer par Strowman, qui se fait éliminer par un jeune. Pareil, Joe, il a aussi roulé des mécaniques. Baylor, il a fait le nécessaire pour éliminer Sida avec le brass. Chacun a eu sa petite période pour briller. Il y a une grosse partie du match déroulée aussi pour mettre en avant Braun Strowman, pour mettre over Salbo, il a été fait carrément également, donc il y a beaucoup d'objets qui sont atteints. Il faut savoir que Triple H s'est blessé pendant le match au niveau de la cheville. Il a été notamment soigné hors champ. Ils l'ont bandé la cheville,
ça.
Ce qui explique aussi peut-être pourquoi il y a eu le rythme qui a carrément baissé à la fin du match quand les jeunes étaient partis, parce que peut-être que Triple H n'a pas pu faire le tiers de ce qu'il voulait dérouler dans le match. Kurt Angle, effectivement, il me fait peur moi dans le ring. Ouais. Il m'a fait vraiment peur vers la fin. J'ai l'impression qu'il allait se dissoudre dans le ring là. Sa nuque qui avait triplé de volume, il était rouge. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là pour lui. Hein. Clairement, c'est un peu dommage de ne pas le revoir.
On se réjouissait un peu d'une potentielle affiche à WrestleMania pour lui et tout. Ouais. De Joe qu'on a vu, on se demande si c'est bon pour lui. Ouais.
Ouais, moi, je serais plutôt pour le laisser backstage. Voilà, le rôle de General Manager, c'est super cool. Peut-être faire un angle slam de temps en temps sur un autre catcher, mais un match de 5, 6 minutes, 10 minutes, ça risque d'être vraiment. Soit ce sera moche à voir, soit ce sera carrément dangereux. Quoi. Donc là, surtout que c'est pas. Les problèmes de santé de Kurt Angle, ça fait longtemps qu'on les connaît. Il y a déjà que 5 ou 6 ans, on disait qu'il était très très mal en point. Donc là, je pense qu'on n'est pas dans le cinéma. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné quand même. Maintenant, bon, ils ont raconté les histoires qu'ils avaient à raconter. C'est sûr que c'était un petit peu anticlimatique vers la fin. C'est peut-être pas totalement bien exécuté, pas totalement bien réalisé. Ça a laissé un peu le public perplexe. C'était un peu anticlimatique.
Bah, c'est un peu trop long.
C'est ça. Il y a eu des blancs qui étaient un petit peu trop. C'était pas précis. C'est pas excellemment exécuté. Maintenant, je pense que ça pose des bonnes bases pour la suite. Et j'ai bien aimé, ça m'a fait la soirée, la gueule de Triple H quand il se fait étrangler par Braun Strowman. Il l'emmenait pas large et ça fait plaisir de voir The Game se donner comme ça pour un nouveau. On sent que là maintenant ils ont envie de mettre les bouchées doubles pour Strowman.
Bah là c'est un programme, il faut occuper Braun Strowman. Tu disais il a cramé son shot face à Brock Lesnar. Si on veut le garder au top, on envoie les grosses têtes et c'est Triple H hein, qui a plus un gros nez qu'une grosse tête d'ailleurs, mais
c'est vrai. C'est vrai. Donc là-dessus.
Et là effectivement.
Là-dessus c'est réussi. Ça aurait pu être mieux, mais c'est loin d'être honteux. Maintenant, apparemment, effectivement, ça a déçu beaucoup le public, donc je pense pas qu'on peut placer ça comme une réussite. Mais en tout cas, pour moi, c'était plutôt satisfaisant. Ça m'a pas gâché le pay-per-view, loin de là.
Et bah, de toute façon, si vous nous écoutez, c'est que vous voulez notre avis, et donc visiblement, Ketchup a plutôt kiffé hein, ouais. Ce pay-per-view. D'ailleurs, si vous voulez bien, messieurs, c'est l'heure du mot de la fin. Giscal, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous partager ton top, ton flop et ta note?
Yes. Alors, mon top, il est facile.
Il a dit oui.
Merde, il m'a piégé. mon top, il est très facile. Il va aller à AJ Styles, mais les doigts dans le nez. Bravo. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Mais il y en aurait eu plein d'autres. On aurait pu distribuer pas mal de tops ce soir, mais AJ Styles, c'est...
Bon, on s'en chargera
voilà,
pour toi.
C'était hein. fantastique. Et puis, bah, mon flop, ça me fait mal, mais j'ai pas le choix. Je suis désolé, John Cena.
Aïe.
Pour le t-shirt, pour l'implication, pour son rôle dans le match, pour tout. Il n'avait rien à faire dans ce pay-per-view. Et il a confirmé pourquoi il n'avait rien à faire dans ce pay-per-view pendant la soirée. Donc, voilà, parfois il faut savoir rester chez soi et revenir à un meilleur moment. Donc, c'est une erreur de timing. Voilà, flop pour Cena. Et puis, bah, écoute, sinon, pour la note, il n'y a pas eu grand-chose de raté vraiment dans ce pay-per-view. J'irais même jusqu'à dire qu'il n'y avait quasiment rien acheté. Ouais. Sauf peut-être le Survivor Series de 5 contre 5 des filles, mais sinon à part ça c'était pas mal, donc je pense que je vais mettre un bon petit 4 à ce pay-per-view avec du bon catch, des belles histoires, pas mal d'écueils évités avec brio sur ces matchs champion contre champion qui sont toujours difficiles à booker et qui ont tous été magnifiquement gérés, je trouve.
C'est vraiment peut-être l'une des réussites de Survivor Series.
Donc bravo. C'était une belle soirée de catch WWE, je trouve.
Ringside.
Je vais donner mon flop à Alicia Fox qui a fait tout ce qu'elle a fait dans la soirée.
Alicia Flop.
Hein, elle a même perdu son chapeau pendant la séquence.
Oui, pendant
le segment
avec.
Elle botche tout.
Tout est botché du début à la fin. Le top, il y aurait beaucoup de gens qui pourraient avoir le top. On aurait pu le donner aux Uso, Cesaro, Charlotte, Alexa Bliss, mais je vais le donner à Brock Lesnar parce que voilà, il est revenu au top. Il a assuré ce qui pourrait être considéré comme un main event aussi, et qui voilà, il m'a fait rêver moi pendant ce match. Voilà, donc je donne mon top à Brock et je vais aussi donner un bon 4, voilà, parce qu'il y a rien qui m'a réellement déçu dans le match, ou du moins qui m'est donné envie de mettre moins que 4.
Eh ben moi, messieurs, mon top, justement, tu en parlais, je le donne au match les Uso contre The Bar. Et mon flop, je le donne tout simplement au match des filles, le Survivor match des filles, qui était vraiment construit, j'ai trouvé, un petit peu à l'envers. On a fait sortir celle qu'il fallait pas faire sortir dès le début. Enfin bref, on en a suffisamment parlé. Et ma note, 3,75 pour messieurs. Bah oui, je suis désolé.
Presque,
voilà. Mais en tout cas, on est d'accord, un énorme pay-per-view, un bon cru. De toute façon, ça s'annonçait bien, hein, la carte était belle, hein, donc là-dessus, promesse tenue, comme on dit. Et pourtant, je sais que le booking aura beaucoup fait parler avec ces changements de titre un petit peu, voilà, en catastrophe. Mais voilà, Survivor Series, c'est du gala maintenant. Hein, c'est vraiment un moment très spécial dans l'année.
Ils l'ont traité comme une vraie soirée du Big Four, quoi, pas comme les années précédentes, je trouve. Donc.
Ouais. Non. Il y avait un traitement très particulier. On l'a bien vu. Peut-être qu'ils se sont rendus compte de certaines choses un petit peu tardivement, mais c'est pas grave. Derrière, ça a déroulé, ça a délivré. Et il y a eu des belles réussites, tu le disais, jusqu'à les matchs champion contre champion, avec des oppositions de heel contre heel,
facile à booker.
Ouais, jamais facile à booker. Là, c'était une belle réussite aussi. Donc voilà, on est content. Et puis évidemment, on attend les retombées pour Raw et SmackDown, dont on se fera un plaisir d'analyser cette semaine. Encore une fois, merci beaucoup à vous, messieurs.
Je rappelle à tout le monde
que vous pouvez nous suivre sur iTunes, nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, également sur YouTube, Ketchup CDC, c'est également le Twitter, le Facebook, abonnez-vous, comme ça vous ne manquez aucun live, aucun direct, aucun épisode. lescahiersducatch.com hein, et le forum pour venir discuter avec nous. N'hésitez pas à commenter, section commentaire de la vidéo, pour nous donner votre top, votre note et votre flop. Quel est le match que vous avez préféré? Est-ce que vous avez kiffé ces Survivor Series? Partagez, mettez-nous des pouces, notez-nous. Je vous donne rendez-vous donc pour Catch Pro et le supplément SmackDown de cette semaine avec, on l'imagine, des grosses, grosses surprises. Messieurs, merci et à bientôt. Salut, salut.
Allez, salut tout le monde.
Ciao, ciao.
Giscard, est-ce que tu pourrais essayer de te décaler légèrement vers sur ta gauche, hein, toi,
sur ma gauche,
ou la caméra la faire pivoter pour que
sans te blesser.
Fais pivoter ta... non, dans l'autre sens du coup. Vas-y. Ouais.
Je suis plus bon. Du tout en face. <de mon ordi. rire>